Chapitre 5 Parangon et les pirates.
Ça me fait rien d'être rossé si je le mérite. Mais pas là, j'ai rien fait de mal.
La plupart des rossés que j'ai reçus, c'était justement quand je n'avais rien fait de mal, mais je n'avais rien fait de bien non plus, rétorqua Althea avec impartialité. Elle prit Cliff par le menton et lui tourna le visage vers la lumière déclinante du jour.
« Ce n'est pas grand-chose, petit. Une lèvre fendue et un bleu sur la joue. Dans quelques jours, il n'y paraîtra plus. Il ne t'a quand même pas cassé le nez. »
Cliff se dégagea d'un air boudeur.
« Il l'aurait fait si je l'aurais pas vu venir. »
Althea lui donna une tape sur l'épaule.
« Alors ça veut dire que tu es rapide et costaud, et ce sont les qualités d'un bon marin. »
« Alors vous trouvez que c'est juste ce qu'il m'a fait ?»
demanda Cliff, furieux. Althea respira. Elle se durcit pour répondre avec froideur.
« La voie est le second. Tu es le mousse et moi, je suis le lieutenant. La justice n'a rien à voir là-dedans, Cliff. La prochaine fois, sois un peu plus vif et assez malin pour rester en dehors de son chemin quand il est de mauvaise humeur. »«
Il est toujours de mauvaise humeur !»
rétorqua Cliff d'un air sombre. Althea laissa passer la remarque. Un marin a le droit de se plaindre du second, mais elle ne pouvait permettre à Cliff de croire qu'elle prendrait son parti. Elle n'avait pas été témoin de l'incident, mais elle avait entendu le récit indigné qu'en avait fait Ambre. Celle-ci était en haut dans le gréement. Le temps qu'elle redescende sur le pont, la voie s'était éloignée d'un air arrogant. Althea se félicitait qu'il n'y ait pas eu d'affrontement entre le second et le charpentier du navire. Néanmoins, l'incident avait aggravé l'inimitié qui régnait entre Ambre et la voie. La taloche que ce dernier avait administrée à Cliff avait jeté le gamin sur le carreau, et tout ça parce que le filin qu'il était en train de lover n'était pas assez plat au goût du second. En son fort intérieur, Althea considérait la voie comme une brute et un imbécile. Cliff était un bon petit gars qui donnait le meilleur de lui-même quand on le complimentait, non quand on le brutalisait. Il se tenait à l'arrière, les yeux perdus dans le sillage du navire. Au loin, on apercevait les petits tertres verts des îlots. La mer était calme, avec une brise légère que le parangon utilisait au mieux. Ces derniers temps, le navire semblait non seulement désireux, mais presque impatient de leur faire gagner au plus vite les îles des pirates. Il avait cessé tous ses discours sur les serpents et ses songeries métaphysiques sur l'essence de l'être et ce qu'il pensait de lui-même. Althea secoua la tête en observant des mouettes qui piquaient sur un banc de poissons à la surface de l'eau. Elle se réjouissait qu'il ait renoncé à philosopher. Ambre avait semblé apprécier ces longues conversations qui, au contraire, troublaient Althea. Maintenant, son ami se plaignait que Parangon soit renfermé et cassant, mais aux yeux d'Althea, il paraissait plus sain et plus concentré sur sa tâche. Cela ne valait certainement rien à un homme ni à une vive nef de réfléchir perpétuellement sur sa propre nature. Elle se retourna vers Cliff. Le mousse léchait consciencieusement sa lèvre fendue, ses yeux bleus étaient perdus au loin. Elle le poussa doucement du coude.
« Tu ferais mieux d'aller dormir un peu, petit. Ton quart va revenir bien assez tôt. »«
T'aides bien, »
acquiesça-t-il apathique. Il la dévisagea un instant d'un air absent, puis parut la voir enfin.
« Je sais que j'ai qu'à accepter... Je l'ai appris, ça, quand j'étais esclave. Des fois, il n'y a qu'à s'éteindre et baisser ta tête. »
Althea eut un sourire sans joie.
« Parfois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un matelot et un esclave. »«
T'aides bien, »
approuva le gamin sur un ton agressif.
« Nuit, madame, »
ajouta-t-il avant de tourner les talons et de s'éloigner. Elle continua à contempler un petit moment le sillage qui s'élargissait derrière le navire.
Ils étaient bien loin de Terrilleville à présent.
Elle pensa à sa mère et à sa sœur, bien douillettement à la maison, et les envia. Puis elle se rappela à quel point elle avait trouvé ennuyeuse la vie à terre, et combien l'éternelle attente l'avait usée. Elles étaient probablement dans le cabinet de travail de son père, à l'heure qu'il était, en train de siroter leur tisane et de se demander comment présenter Malta à la bonne société avec une bourse aussi plate. Il faudrait lésiner surtout et tenir jusqu'à la fin de l'été. Pour être juste,
Elle conclut qu'elle devait s'inquiéter à son sujet et pour le navire et pour le mari et le fils de Kefria. Elle devrait prendre leur mal en patience. Althea doutait fort d'être de retour, quoi qu'il advienne, avant le printemps. Quant à elle, elle se préoccupait plutôt de la grande question. Comment retrouver son navire et ramener Vivacia en sécurité à Terrilville? Quand Brachen l'avait aperçue pour la dernière fois, la vive nef était aux mains du pirate Kenith, mouillé dans une des places fortes de pirates. C'était maigre comme information. Ces îles n'étaient portées sur aucune carte, elles étaient infestées de pirates. De surcroît, la région était incertaine car les tempêtes et les inondations modifiaient les contours des côtes, de l'embouchure des fleuves et des voies navigables. C'était ce qu'elle avait entendu dire. Dans ses traversées commerciales vers le sud, son père avait toujours évité les îles des pirates, précisément à cause des dangers qu'elle s'apprêtait à affronter. Qu'en aurait pensé son père? Elle conclut qu'il aurait approuvé sa tentative de sauvetage du navire, mais désapprouvé son choix du vaisseau. Il disait toujours que Parangon n'était pas seulement fou, mais qu'il avait la guigne. Quand elle était petite, il lui avait interdit de l'approcher. Elle se retourna brusquement et se mit à marcher comme si elle avait pu s'éloigner de son malaise. La soirée était agréable et le navire, exceptionnellement stable, taillait bien de la route depuis 2 jours. Lavoy, le second, s'était lancé dans une furie de discipline et de propreté, mais ce n'était pas inhabituel. Brachen lui avait ordonné de dissiper la tension existant entre les matelots enrôlés et ceux qui s'étaient embarqués clandestinement pour échapper à l'esclavage. N'importe quel second savait que, pour souder un équipage, il n'y avait rien de tel que de maintenir ses membres sur les dents durant quelques jours. En général, la discipline laissait un peu à désirer et la propreté beaucoup. L'équipage devait non seulement affiner ses compétences, mais aussi apprendre à se battre. « Pas uniquement pour défendre le navire, » ajouta-t-elle avec morosité, « mais pour maîtriser les techniques d'assaut. » Tout cela lui parut soudain insurmontable. Comment pouvait-il espérer localiser la Vivacia, sans parler même de la récupérer, avec un équipage aussi disparate et un vaisseau imprévisible?
« Bonsoir, Althea, »
dit Parangon. Sans même y songer, elle avait rejoint le gaillard d'avant et s'était approchée de la figure de proue. Il tourna vers elle son visage défiguré comme s'il avait pu la voir. « Bonsoir, Parangon, » répondit-elle. Elle tâcha d'adopter une intonation enjouée, mais le navire la connaissait trop bien.
« Alors, qu'est-ce qui te tracasse le plus ce soir ?»
Althea capitula. J'ai tellement de soucis qui me grignotent, qui jappent à mes talons comme des roquets navires. En vérité, je ne sais lequel me tracasse le plus. La figure de proue eut un petit reniflement de dédain.
Alors flanque-leur un bon coup de pied, comme si c'était vraiment une bande de chiots, et reporte le regard sur votre destin.
Il détourna sa figure barbue pour faire face à l'horizon qu'il ne voyait pas.
« Kenith, dit-il d'une voix de prophète, nous allons tenir tête aux pirates et lui reprendre ce qui nous appartient de droit. Rien ne doit venir s'interposer entre nous et notre but. »
Althea en resta coite. Elle n'avait jamais entendu le navire parler de la sorte. Au début, il répugnait même à s'aventurer en mer. Il avait passé tant d'années échoué sur la plage, abandonné, aveugle, qu'il avait reculé devant l'idée de naviguer, sans parler même de s'engager dans une mission de sauvetage. À présent, il semblait à l'entendre qu'il en avait non seulement accepté l'idée, mais encore qu'il goûtait la perspective de se venger de l'homme qui s'était emparé de Vivacia. Il croisa ses bras musclés sur sa large poitrine. Ses poings étaient serrés. Avait-il vraiment épousé sa cause ?
« Ne pense pas aux obstacles qui se dressent entre le présent et le moment où nous l'affronterons, » dit le navire d'une voix basse et douce. « Si tu t'inquiètes à chaque étape d'un voyage, qu'il soit long ou court, tu le fractionnes à l'infini, et chaque fraction peut t'abattre. Garde les yeux fixés sur le but. »
« Je pense que nous ne réussirons que si nous nous préparons, »
objecta Althea. Parangon secoua la tête.
« Apprends à croire en ton succès. Si tu te dis, quand on trouvera Kenith, il faudra qu'on se batte bien, alors tu remettras sans cesse à plus tard. Battons-nous bien maintenant. Faisons dès aujourd'hui ce qu'il faut pour réussir au bout du voyage. Et quand arrivera le moment, tu découvriras que ce n'est qu'un début. »
Althea soupira.
« Tu parles comme Ambre. »
« Non, »
répondit-il platement.
« Maintenant, je parle comme moi. Le moi que j'avais écarté et caché. Le moi que j'avais l'intention d'être à nouveau un jour, quand je serai prêt. Mais j'ai cessé d'avoir l'intention. Je suis maintenant. »
Sans un mot, Althea secoua la tête. Les rapports avec Parangon étaient plus faciles quand il était maussade. Elle l'aimait, mais elle n'était pas liée à lui comme à Vivacia. Avec Parangon, elle avait souvent l'impression de s'occuper d'un enfant chéri, mais mal élevé et difficile. Parfois, c'était vraiment trop pénible. Même aujourd'hui, où il paraissait s'être allié à elle, son caractère passionné pouvait être effrayant. Un silence embarrassé tomba entre eux. Elle écarta ses pensées et essaya de se détendre dans le doux balancement du navire et les bruits lénitifs de la nuit. La paix fut de courte durée.
« Tu peux dire que tu me l'as dit si tu veux. »
La voix d'Ambre derrière elle était lasse et amère. Althea attendit que le charpentier du navire vienne la rejoindre à la lisse avant de se hasarder à poser la question.
« Tu as parlé au capitaine au sujet de Cliff et de Lavoy ?»«
Oui. »
Elle tira un mouchoir de sa poche et s'épongea le front.
« Ça n'a servi à rien. » Brashen s'est contenté de répondre que Lavoy était le second, Cliff le mousse, et qu'il n'interviendrait pas. « Je ne comprends pas ça. »
Un léger sourire arrondit les lèvres d'Althea.
« Cesse de le considérer comme Brashen. » S'il était dans la rue et qu'il voyait Lavoy assommer un petit garçon, il se précipiterait pour intervenir. Mais nous ne sommes pas dans la rue. Nous sommes sur un navire et il est le capitaine. Il ne peut pas se mettre entre le second et l'équipage. S'il le faisait ne serait-ce qu'une fois, les hommes perdraient tout respect pour Lavoy. Ils auraient une kyrielle de plaintes à formuler contre lui et tout finirait au pied du capitaine. Il serait si occupé à jouer la nounou qu'il n'aurait plus le temps de commander. Je parie que Brashen n'admire pas plus que toi le geste de Lavoy, mais le capitaine sait que la discipline du navire doit passer avant la fierté malmenée d'un gamin.
« Jusqu'où laissera-t-il aller Lavoy ?»
gronda Ambre.
« Ça concerne le capitaine, pas moi, »
répondit Althea. Elle ajouta avec un sourire ironique,
« Je ne suis que le lieutenant, tu sais. »
Ambre s'essuya encore le front puis la nuque et son ami lui demanda
« Tu vas bien ?»«
Non, »
répliqua Ambre laconiquement sans la regarder. Althea scruta le profil du charpentier. Dans la lumière déclinante, sa peau paraissait parcheminée et tendue, ses traits étaient accusés. Le teint d'Ambre était si particulier que son ami ne pouvait rien en conclure, mais ce soir, il lui évoquait un parchemin vétuste. Elle avait noué ses cheveux châtain clair et les avait dissimulés sous un fichu. Althea laissa le silence se prolonger, et Ambre finit par déclarer à contre-cœur
« Mais je ne suis pas malade. Je souffre d'une affection qui se déclare de temps en temps, avec de la fièvre et de la fatigue. Ça va aller. »
Devant le regard horrifié de son ami, elle se hâta d'ajouter «
« Ce n'est pas contagieux, cela ne touche que moi.
Malgré tout, tu devrais en parler au capitaine et rester dans ta cabine jusqu'à ce que ce soit passé. » Elles sursautèrent toutes deux quand Parangon intervint tranquillement.
« Des rumeurs de fièvre ou de maladie à bord d'un navire, ça peut rendre l'équipage nerveux. »«
Je garderai cela pour moi, »
assura Ambre.
« Ça m'étonnerait qu'à part toi et Jake, « on remarque ma maladie. Jack m'a déjà vu malade. Cela ne l'inquiétera pas. »
Elle se tourna vers Althea.
« Et toi, tu as peur de dormir à côté de moi ? »
Elles se regardèrent dans l'obscurité croissante.
Je te crois sur parole quand tu dis qu'il n'y a rien à craindre, mais tu devrais quand même en parler au capitaine. Il pourra peut-être organiser tes tâches de façon que tu aies plus de temps pour te reposer.
Elle n'ajouta pas qu'il trouverait probablement le moyen de l'isoler pour éviter d'ébruiter sa maladie.
Le capitaine...
Un petit sourire retroussa les lèvres d'Ambre.
Tu penses vraiment toujours à lui de cette façon?
C'est bien ce qu'il est,
répliqua Althea avec raideur. La nuit, dans sa couchette étroite, elle ne songeait certainement pas à Brashen en tant que capitaine. Mais le jour, elle était bien obligée. Elle n'avouerait pas à Ambre à quel point il lui était difficile d'observer cette distinction. En parler ne faciliterait pas les choses. Il valait mieux garder le silence. Elle avait la désagréable impression que Parangon connaissait les sentiments réels qu'elle éprouvait pour Brashen. Elle se figura qu'il allait débiter des horreurs, faire des révélations, mais la figure de proue resta muette.
« C'est ce qu'il est en partie, » approuva volontiers Ambre. « À certains égards, c'est son meilleur côté. Je crois qu'il a passé longtemps à rêver, à imaginer la façon dont il se comporterait s'il était capitaine. Je crois qu'il a souffert sous les ordres de supérieurs médiocres, qu'il a beaucoup appris des bons, et il apporte toute cette expérience dans ce qu'il fait maintenant. Il a plus de chances qu'il ne le suppose d'être en mesure de vivre son rêve. C'est si rare.
« Qu'est-ce qui est si rare ?»
demanda Jack en les rejoignant à grandes enjambées. Elle gratifia Althea d'un large sourire et Ambre d'un coup de coude affectueux. Elle s'appuya à la lisse et entreprit de se curer les dents. Althea la dévisagea avec envie.
Jack respirait la santé, éclatait de vitalité. Élancée, musclée, elle se comportait avec le plus grand naturel.
Elle ne se comprimait pas la poitrine et ne se gênait pas pour porter des culottes de marin qui dévoilaient ses mollets. Sa longue tresse blonde était embroussaillée par le vent et le sel, mais elle s'en moquait complètement.
« Elle est, » pensa Althea mal à l'aise, « ce que je fais semblant d'être. Une femme que son sexe n'empêche pas de vivre comme elle l'entend. » Ce n'était pas juste. Jack avait grandi dans les six duchés et elle revendiquait l'égalité comme un droit. En conséquence, les hommes la lui cédaient généralement. Althea avait parfois l'impression qu'elle avait besoin d'une permission pour être simplement elle-même. Et les hommes paraissaient le sentir. Rien ne lui venait facilement. La lutte était aussi constante que sa respiration.
Jack se pencha sur la lisse.
« Bonjour, Parangon !»
Elle demanda à Ambre par-dessus son épaule.
« Je pourrais t'emprunter une aiguille fine. J'ai du raccommodage à faire, mais je ne trouve plus la mienne. »
« Si tu veux, je viens dans un moment, je te la donnerai. »
Jack remua avec nervosité.
« Dis-moi où elle est, je la prendrai moi-même. »
« Prends une des miennes, » intervint Althea. « Elles sont dans mon petit sac, piquées dans un morceau de toile. Il y a aussi du fil. »
Elle savait que l'exigence immodérée d'intimité de son amie s'étendait à ses affaires.
« Merci. Alors, qu'est-ce qui est si rare ?»
Elle fit la moue et prit une expression interrogatrice.
« Ce n'est pas ce que tu crois, » répondit Ambre avec indulgence. « On parlait des gens qui vivent leurs rêves, et je disais qu'ils étaient rares et encore plus rares à apprécier le fait. Car la plupart découvrent, quand leurs rêves se réalisent, que ce n'est pas ce qu'ils voulaient, ou que leurs rêves dépassent leurs capacités et ça se termine dans l'amertume. » Mais pour Brashen, on dirait que ça se passe bien. Il fait ce qu'il a toujours voulu faire et il le fait bien. C'est un bon capitaine.
C'est vrai,
approuva Jack d'un air méditatif. Elle reprit sa position première le long de la lisse avec une grâce féline et leva son regard pensif vers les étoiles naissantes.
Et je parie qu'il n'est pas mauvais non plus dans d'autres domaines.
Jack avait du tempérament. Ce n'était pas la première fois qu'Althea l'entendait exprimer l'intérêt qu'elle portait à un homme. La vie à bord et les règles qui l'obligeaient à une période d'abstinence contrariaient sa nature. Si elle ne pouvait satisfaire son corps, elle laissait libre cours à sa folle du logis et tenait souvent à partager ses fantasmes avec Ambre et Althea. C'était son principal sujet de conversation durant les rares nuits qu'elles passaient ensemble sur leur couchette.
Jack était doué d'un humour caustique, et le récit de ses liaisons passées qui avaient mal tourné faisait souvent mourir de rire les deux femmes. En général, Althea trouvait amusant ses commentaires grivois sur les matelots, mais elle découvrit que, s'agissant de Brashen, elle n'en appréciait pas le sel. Elle eut l'impression d'avoir du mal à respirer. Jack ne parut pas remarquer son silence contraint.
« Vous avez observé ses mains ?»
interrogea-t-elle avec emphase.
« Il a les mains d'un homme qui sait travailler.
Ouais, on l'a tous vu à l'œuvre là-bas sur la plage.
Mais maintenant qu'il est le capitaine, qu'il n'est plus dans le goudron et la gadoue, il a les mains soignées d'un monsieur. Quand un homme me touche, j'ai horreur de me demander où il les a fourrées avant et s'il les a lavées depuis. J'aime bien qu'un homme ait les mains propres. »
« C'est le capitaine !» objecta Althea. « On ne devrait pas parler de lui comme ça !» Elle surprit la grimace d'Ambre à sa remarque affectée. Elle crut que Jack allait répliquer vertement, avec sa langue bien pendue, et elle craignit encore plus que Parangon ne pose une question. Mais l'autre se contenta de s'étirer et de rétorquer.
« Il ne sera pas toujours le capitaine, ou peut-être ne serai-je pas toujours un matelot sur son navire ?» En tout cas, un jour viendra où je ne serai pas obligé de l'appeler commandant. Et alors ? »
Elle s'assit brusquement en faisant un grand sourire qui découvrit ses dents blanches.
« Eh bien, » elle haussa un sourcil. « Je crois que ça se passera bien entre nous. Je l'ai vu en train de m'observer. Plusieurs fois, il m'a félicité sur mon travail. »
Plus pour elle-même que pour les autres, elle ajouta
« On est de la même taille. Ça me plaît. C'est plus commode, pour plein de choses. »
Althea ne put se contenir. « Ce n'est pas parce qu'il t'a félicité qu'il lorgne sur toi. Le capitaine est comme ça. Il sait reconnaître le bon travail, et il le dit comme il le dirait s'il voyait qu'on sabote la besogne. »«
Bien sûr, » admit Jack de bon cœur. « Mais il a bien fallu qu'il m'observe pour savoir que je faisais du beau travail, si tu vois ce que je veux dire. »
Elle se pencha à nouveau par-dessus la lisse.
« Qu'est-ce que tu en penses, navire ? Ça fait un bout de temps que vous êtes amis, le capitaine Trail et toi. J'imagine que vous vous en êtes raconté des histoires. Qu'est-ce qu'il aime comme genre de femme ?»
Durant le bref silence qui suivit, Althea fut au supplice. Son cœur s'arrêta, elle retint son souffle. Que Brashen avait-il confié à Parangon que le navire allait-il laisser échapper ? Parangon avait changé d'humeur. Il répondit sur un ton gamin presque charmeur, manifestement flatté par l'attention que lui accordait Jack.
« Brashen, tu crois vraiment qu'il me parlerait librement de ce sujet ?»
Jack roula des yeux.
« Ça existe, un homme qui ne parlerait pas en toute liberté en compagnie de ses semblables ?»«
Peut-être a-t-il mentionné une ou deux histoires devant moi, de temps en temps ?»
La voix avait pris une intonation salace.
Ah, je pensais bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'il préfère, notre capitaine? Non, laisse-moi deviner.
Elle s'étira avec nonchalance.
Peut-être, puisqu'il félicite toujours son équipage quand le travail est fait, leste et bien, c'est ce qu'il préfère chez une femme. Une qui est rapide à grimper dans le gréement et à baisser la toile.
Jake! Althea ne put réprimer son indignation, mais Parangon intervint.
« À vrai dire, Jack, d'après ce qu'il m'a raconté, ce qu'il préfère, c'est les femmes qui se taisent. »
Jack rit de bon cœur.
« Bon, mais pendant qu'elle se tait, cette femme, il espère qu'elle va faire quoi ?»«
Jack !»
Tout le reproche d'Ambre était contenu dans ce simple mot prononcé à mi-voix. Jack se retourna vers les deux femmes en riant alors que Parangon demandait
« Quoi ?»«
Navré d'interrompre ce caquetage, mais le capitaine désire voir le lieutenant. »
La voix s'était approchée sans bruit. Jack se redressa et son sourire s'évanouit. Ambre jeta au second un regard flamboyant sans mot dire. Althea se demanda ce qu'il avait entendu et s'en voulut. Elle ne devrait pas traîner sur le gaillard d'avant à bavarder de manière si désinvolte avec des membres d'équipage, surtout sur des sujets pareils. Elle résolut d'imiter Brashen et de mettre davantage de distance entre l'équipage et elle, ce qui contribuerait à entretenir le respect. Pourtant, l'idée de rompre les liens d'amitié qui l'unissaient à Ambre la décourageait. Alors, elle serait vraiment seule. Comme l'était Brashen.
« J'arrive tout de suite !»
répondit-elle tranquillement à la Voy. Elle ne releva pas le désobligeant caquetage. Il était le second. Il pouvait lui faire des reproches, la réprimander, se moquer d'elle, et elle se devait d'encaisser. Qu'il ne s'en soit pas privé devant des membres d'équipage lui restait sur le cœur, mais riposter ne ferait qu'empirer les choses.
« Et quand vous en aurez fini là-bas, occupez-vous de Clapeau, voulez-vous ? On dirait bien que notre gaillard a besoin d'un petit rafistolage. »
La Voy fit craquer lentement ses articulations et un sourire apparut sur ses lèvres. La remarque était destinée à provoquer Ambre, Althea le savait. Le rafistolage dont Clapeau avait besoin, c'était le résultat direct des points de La Voy. Il avait découvert la répugnance d'Ambre envers toute forme de violence. Il n'avait pas encore trouvé de prétexte pour passer son humeur sur Jack ou sur le charpentier du navire, mais il paraissait se délecter de ses réactions devant les rossés qu'il infligeait aux autres membres d'équipage. Le cœur serré, Althea déplora que son amie soit si orgueilleuse. Si elle acceptait de s'incliner un peu devant le second, La Voy serait satisfaite. Elle redoutait ce qui pourrait sortir de la fermentation de cette situation. La Voy prit la place d'Althea sur la lisse. Ambre se retira légèrement. Jack souhaita laconiquement une bonne nuit à Parangon avant de s'éloigner d'un pas nonchalant. Althea savait qu'elle devait se dépêcher d'aller voir Brashen, mais elle n'aimait pas laisser La Voy et Ambre seules. S'il arrivait quelque chose, ce serait la parole de son amie contre celle du second. Et la parole d'un simple matelot n'avait aucun poids à côté de celle d'un second. Althea raffermit sa voix.
« Charpentier, il faudrait réparer le loquet de ma cabine ce soir. Il vaut mieux profiter du beau temps pour s'occuper des petits travaux, faute de quoi il risque de se transformer en gros pendant une tempête. »
Ambre lui lança un coup d'œil. En réalité, elle avait été la première à signaler que la porte fermait mal. Althea avait accueilli sa remarque avec un haussement d'épaule.
« Je vais m'en occuper alors, »
promit Ambre avec gravité. Althea s'attarda encore un peu en espérant que son amie saisirait ce prétexte pour fausser compagnie à La Voy, mais elle n'en fit rien, et Althea n'avait aucun moyen de la forcer sans attiser davantage la tension qui couvait. Elle les laissa à contre-cœur. La chambre du capitaine se trouvait à l'arrière du bâtiment. Althea frappa un coup sec et attendit qu'on lui dise d'entrer. On avait supposé, lors de la construction du Parangon, que le capitaine serait aussi le propriétaire du navire, ou à tout le moins un membre de la famille. La plupart des marins devaient se contenter de hamacs crochés dans les cales, là où ils trouvaient de la place. Cependant, Brashen avait une chambre munie d'une porte, d'un lit fixe, d'une table de cartes et de fenêtres qui donnaient sur le sillage du navire. Elle fut accueillie par la douce lumière jaune d'une lampe, les riches odeurs de cire et les chaudes nuances du bois poli. Brashen leva les yeux de la table des cartes. Devant lui étaient étalés ses croquis sur les morceaux de toile et les essais d'Althea sur parchemin. Il paraissait fatigué et bien plus vieux que son âge. Son visage s'était desquamé après les brûlures causées par le venin du serpent. À présent, les rides sur son front, ses joues et au coin de son nez étaient plus nettement marquées. Le venin avait aussi rongé une partie de ses sourcils, et l'intervalle laissé nu lui donnait un air quelque peu surpris. Elle se félicitait que les gouttes de poison brûlant n'aient pas abîmé ses yeux bruns.
« Eh bien ?»
demanda tout à coup Brashen, et elle se rendit compte qu'elle le dévisageait.
« Vous m'avez convoqué ?»
déclara-t-elle presque sèchement, car elle se sentait embarrassée. Il se toucha les cheveux, comme s'il se croyait coiffé de travers. Il parut ébranlé par sa réponse directe.
« Convoqué. Oui, en effet. J'ai eu une petite conversation avec La Voy. Il m'a exposé quelques-unes de ses idées. Certaines me paraissent valables, mais je crains qu'il ne m'entraîne à des actes que je risque de regretter plus tard. Et je me demande si je connais bien cet homme. Est-il capable de tricher, même... »
Il se redressa dans son fauteuil comme si subitement il avait décidé qu'il parlait trop librement. Je voudrais avoir votre opinion sur la façon dont est dirigé ce navire ces derniers temps.
Depuis l'attaque du serpent ?
Précisa-t-elle inutilement.
Il y avait eu un subtil glissement de pouvoir depuis que Brashen et elle avaient ensemble éloigné le serpent. Les hommes avaient davantage de respect pour ses capacités désormais, et il lui semblait que la veuve ne voyait pas la chose d'un bon œil. Elle chercha une façon de s'exprimer sans paraître critiquer le second. Elle respira.
Depuis l'affrontement avec le serpent, je trouve ma part de commandement plus facile à assumer. Les matelots m'obéissent promptement et correctement. Je sens que je me suis acquis leur cœur et leur fidélité.
Elle prit une nouvelle inspiration et sauta le pas.
Pourtant, depuis lors, le second a décidé de durcir la discipline. En un sens, c'est compréhensible. Les hommes n'ont pas bien réagi pendant l'attaque. Certains n'ont pas obéi, et il n'y en a pas eu beaucoup qui se sont empressés de venir à la rescousse.
Brashen fit la grimace.
J'ai moi-même observé que Lavoy n'est pas venu à notre secours. Il était de quart sur le pont et pourtant il ne nous a pas aidés du tout.
Althea sentit son estomac se contracter. Elle aurait dû le remarquer aussi.
Lavoy était resté bras ballants pendant que Brashen et elle combattaient le serpent. Sur le moment, cela lui avait paru bizarrement naturel qu'ils soient seuls tous les deux à affronter le danger. Elle se demanda si la défection de Lavoy ne s'expliquait pas autrement que par la peur. Avait-il espéré qu'elle ou Brashen ou eux deux fussent tués? Espérait-il hériter du commandement du navire? Si oui, qu'en serait-il de leur mission?
Brashen s'était tu pour la laisser réfléchir.
Depuis l'attaque du serpent, le second a durci la discipline, mais pas de façon équitable. Certains hommes me paraissent injustement visés. Clapeau, par exemple. Et Cliff.
Brashen ne la quittait pas des yeux.
Je suis surpris que vous ayez de la sympathie pour Clapeau. Il n'a rien fait pour vous venir en aide quand Arthur vous a agressé.
Elle secoua la tête au bord de la colère.
Personne ne se serait attendu à ça de sa part. Il est à moitié demeuré. Si on lui donne des instructions, qu'on lui dit ce qu'il faut faire, il ne s'en sort pas trop mal. Il était dans tous ses états quand Arthur... Quand j'ai repoussé Arthur, Clapeau sautait partout, se frappait la poitrine et se faisait des reproches. Sincèrement, il ne savait pas quoi faire. Arthur était son compagnon de bordée. Je suis le lieutenant et il ne savait pas qui choisir. Mais sur le pont, quand le serpent a attaqué, je me souviens qu'il a été le seul à avoir le cran de lui jeter un seau et à tirer Haf pour le mettre en sûreté. S'il n'avait pas fait ce geste, il nous manquerait un matelot. Il n'est pas finaud, loin de là, mais c'est un bon marin si on n'exige pas de lui ce qui dépasse ses capacités.
Et vous pensez que Lavoy exige trop de lui?
Il est en butte à toutes les moqueries des autres. C'était à prévoir, et tant que cela ne va pas trop loin, Clapeau a l'air d'apprécier d'être un objet d'attention. Mais quand Lavoy s'y met aussi, le jeu devient plus cruel et plus dangereux. Lavoy m'a dit d'aller soigner Clapeau quand vous aurez terminé avec moi. C'est la deuxième fois en deux jours qu'il est rossé. Il l'entraîne à faire des bêtises ou des choses dangereuses. Quand quelque chose va de travers et que Lavoy en accuse Clapeau, aucun de ses camarades n'avoue sa part de responsabilité. Ce n'est pas sain pour l'équipage. Ça nuit à leur unité alors qu'on a absolument besoin de les rassembler.
Brashen hochait la tête avec gravité.
Avez-vous remarqué l'attitude de Lavoy à l'égard des esclaves de Terrilville qu'on a libérés?
Demanda-t-il à mi-voix.
La question la fit sursauter. Elle garda un instant le silence, repassant dans sa tête ces derniers jours.
Il les traite bien? Dit-elle enfin. Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère contre eux. Il ne les mélange pas avec le reste de l'équipage autant qu'il le pourrait. Certains paraissent avoir de grandes possibilités. Argue et Kittel ont beau le nier, je crois qu'ils avaient déjà tâté d'un pont avant. D'autres ont des cicatrices, des manières d'hommes d'armes. Nos deux meilleurs archers ont le visage tatoué. Pourtant, ils jurent tous être des fils de commerçants, d'innocents habitants des îles des pirates, capturés par des trafiquants d'esclaves. Ce sont des recrues précieuses pour nous, mais ils font bande à part. Je crois qu'à la longue, on devrait convaincre les autres de les accepter comme camarades, afin de...
Et vous avez vu qu'il ne leur permet pas seulement de faire bande à part, mais qu'il paraît les y encourager par la façon qu'il a de distribuer le travail.
Elle se demanda où Brashen voulait en venir.
Peut-être, en effet, On dirait qu'il utilise Arg et Kittel presque comme un capitaine utiliserait un second et un lieutenant pour prendre le quart. Parfois, on a l'impression que les esclaves affranchis forment un second équipage à bord. »
Elle fit remarquer mal à l'aise.
Le rejet semble aller dans les deux sens. Ce n'est pas seulement que nos fatras de marine n'acceptent pas les affranchis. Les tatoués sont tout aussi enclins à faire bande à part.
Brashen s'adossa à son fauteuil.
Ils étaient esclaves à Terrilville.
À l'origine, la plupart ont été capturés dans les villes des îles des pirates.
Ils étaient prêts à tout pour s'enfuir à bord du Parangon. C'était pour eux l'occasion de rentrer chez eux. De mon côté, avant le départ, j'étais prêt à les embarquer en échange de leur travail à bord. Maintenant, je me demande si c'était un marché à viser.
Un homme capturé dans les îles des pirates pour être vendu comme esclave est probablement plus susceptible d'être un pirate,
ou en tout cas d'avoir de fortes sympathies à l'égard des pirates.
« Peut-être, » admit-elle avec réticence.
« Quand même, ils devraient nous être un peu plus dévoués, nous les avons aidés à échapper à l'esclavage. »
Le capitaine haussa les épaules.
« Qui sait ?»« C'est difficile à dire. J'ai dans l'idée qu'aujourd'hui ils se sentent plus dévoués à Lavoy qu'à vous et à moi, ou à Parangon. »
Il s'agita dans son fauteuil.
Voilà la proposition de Lavoy. Il dit qu'en pénétrant dans les eaux des îles des pirates, nous aurons plus de chances de nous en approcher si nous leur faisons croire que nous sommes pirates nous-mêmes. Selon lui, ces matelots tatoués peuvent nous donner de la crédibilité et nous apprendre leurs habitudes. Il insinue même que certains auraient une bonne connaissance de ces îles. Alors on pourrait continuer comme navire pirate.
Quoi ?
Fit Althea incrédule.
Comment ?
En nous inventant un pavillon. En prenant un ou deux vaisseaux pour nous entraîner à la bataille, selon l'expression de Lavoy. Alors, on entre dans une petite ville avec du butin, des trophées, on a la main large et on fait passer le mot qu'on aimerait suivre Kenith. Il y a un certain temps que ce Kenith s'est proclamé roi des pirates. Aux dernières nouvelles, il rassemblait une suite. Si on prétend vouloir s'y rallier, on sera peut-être en mesure de l'approcher et de se faire une idée de la situation de Vivacia avant d'agir. »
Althea fit taire son indignation et se força à réfléchir.
Le grand avantage de cette idée, dans l'éventualité où ils approchaient Kenith, c'était qu'ils pourraient découvrir combien de rescapés comptait l'équipage de Vivacia, s'il y avait des rescapés.
Mais on pourrait tout aussi bien être attiré dans une place forte d'où il serait impossible de s'échapper, même si on avait raison de Kenith et de ses hommes.
Il y a deux autres obstacles de taille à considérer. Le premier, c'est que Parangon est une vive nef. Comment Lavoy croit-il qu'on peut cacher le fait? Et le deuxième, c'est qu'on sera obligé de tuer simplement pour s'entraîner à la bataille. On devra attaquer un petit vaisseau marchand, massacrer l'équipage, voler la cargaison. Comment peut-il même y songer?
On pourrait attaquer un transport d'esclaves.
La réponse l'ébranla et la laissa sans voix. Elle scruta son visage.
Il était sérieux?
Il accueillit son silence étonné avec une expression de lassitude.
Nous n'avons pas d'autre stratégie. Je ne cesse d'imaginer des moyens de localiser Vivacia subrepticement, puis de la suivre et d'attaquer quand Kenith s'y attendra le moins. Je ne trouve rien. Et je parie que, si Kenith garde en otage des membres de l'équipage, il les exécutera plutôt que de nous laisser les récupérer.
Je croyais qu'on voulait d'abord négocier, proposer de payer une rançon pour les survivants et le navire.
Même à ses propres oreilles, ces mots parurent puérils et naïfs. La somme que sa famille avait réussi à réunir avant le départ de Parangon ne suffirait pas à acquitter la rançon d'un navire ordinaire, encore moins d'une vive nef. Althea avait repoussé cette question en se disant qu'il négocierait avec Kenith, lui promettrait un second paiement plus consistant une fois que Vivacia serait retournée intacte à Terrilville. La rançon, c'est ça surtout qui intéressait la plupart des pirates. C'était leur principale raison d'être. Mais Kenith n'était pas comme la plupart des pirates. Tout le monde connaissait les histoires qui couraient sur lui. Il capturait les transports d'esclaves, massacraient les équipages et libéraient leurs cargaisons. Les prises devenaient des vaisseaux pirates et l'équipage était souvent composé des hommes mêmes qui avaient fait partie de la cargaison. À leur tour, ces navires pourchassaient les transports d'esclaves. En vérité, si la Vivacia n'avait pas été mêlée à tout cela, Althea aurait applaudi aux actions de Kenith qui visaient à débarrasser les rivages maudits de l'esclavage. Elle aurait été enchantée de voir le commerce chalcédien des esclaves paralysé dans les îles des pirates. Mais son beau-frère avait transformé la vive nef familiale en transport d'esclaves, et Kenith s'en était emparé. Althea désirait si passionnément reprendre son navire que c'en était pour elle une douleur perpétuelle.
« Vous voyez, » déclara Brashen à mi-voix.
Il ne l'avait pas quitté des yeux. Elle baissa la tête sous son regard, gênée tout à coup qu'il puisse aussi facilement lire dans ses pensées. Tôt ou tard, on en sera réduit à verser le sang. On pourrait s'emparer d'un petit transport d'esclaves. Nous ne sommes pas obligés de tuer les matelots. S'ils se rendent, nous pourrions les laisser aller à la dérive dans les canaux. Alors, nous amènerions le navire dans une ville pirate, libérerions la cargaison, comme Kenith. On gagnerait peut-être la confiance des habitants des îles, et ça nous permettrait de recueillir des renseignements sur la Vivacia. Il paraissait hésitant tout à coup. Les yeux sombres qui la fixaient étaient comme tourmentés. Elle était perplexe.
« Vous me demandez la permission ?»
Et il fronça les sourcils.
Il attendit un moment avant de répondre.
« C'est embarrassant, » admit-il doucement. « Je suis le capitaine du Parangon. Mais Vivacia est le navire de votre famille. C'est votre famille qui a financé l'expédition. » Je crois que pour certaines décisions, vous avez droit à être consulté avant le second. » Il se radossa à son fauteuil et se mordilla les phalanges. Puis il dirigea les yeux vers elle. « Alors, Althea, qu'en pensez-vous ? » La façon dont il prononça son nom modifia soudain la teneur de la conversation. Il lui indiqua un siège d'un geste et elle s'assit avec lenteur. Lui-même se leva et traversa la pièce. Il revint à la table avec un flacon de rhum et deux verres, dans lesquels il versa une rasade. Il la regarda et lui sourit en reprenant sa place. Il posa un verre devant elle. Elle observa ses mains soignées et tâcha de se concentrer sur la conversation. « Qu'en pensait-elle ? » Elle répondit sans hâte.
« J'ignore ce que j'en pense. » Je crois que je me reposais sur vous pour tout ça. Vous êtes le capitaine, vous savez, pas moi. Elle avait voulu s'exprimer avec légèreté, mais sa remarque résonnait presque comme une accusation. Elle prit une gorgée de rhum. Il croisa les bras et s'appuya au dossier de son fauteuil.
« Ah, je ne le sais que trop, » murmura-t-il. Il leva son verre.
Elle fit dévier la conversation. « Et il faut prendre Parangon en compte. Nous connaissons son aversion pour les pirates. Quel serait son sentiment sur tout ça ?»
Brashen émit un petit bruit de gorge et reposa brusquement son rhum. « C'est le tour le plus étrange de cette histoire. Lavoy prétend que le navire sera ravi. »
Althea fut sceptique. « Comment peut-il le savoir ? En a-t-il déjà parlé avec Parangon ?»
Elle s'emporta subitement.
« Comment ose-t-il ? On n'a vraiment pas besoin qu'il mette des idées pareilles dans la tête de Parangon !»
Il se pencha au-dessus de la table. « Il prétend que c'est Parangon qui lui en a parlé le premier. D'après lui, il était en train de fumer une pipe à l'avant un soir, et la figure de proue lui a demandé s'il avait jamais songé à devenir pirate. De là est venue l'idée qu'être un vaisseau pirate serait le plus sûr moyen d'entrer dans un port pirate. Et... Parangon s'est vanté de connaître beaucoup de secrets des îles. Toujours d'après Lavoy.
Vous avez interrogé Parangon là-dessus ?
Brashen secoua la tête.
Je n'ai pas osé aborder le sujet. Soit il penserait que je l'approuve, auquel cas il concentrerait toute son énergie là-dessus, soit que je ne l'approuve pas, auquel cas il pourrait décider d'insister uniquement pour prouver qu'il en est capable. Vous savez comment il est. Je n'ai pas voulu lui faire part de cette idée avant que nous soyons tous d'accord. Si j'en souffle mot, il se mettrait peut-être dans la tête que la piraterie est la seule solution valable.
« Je me demande si le mal n'est pas déjà fait, »
dit rêveusement Althea.
Le rhum produisait un petit point chaud au creux de son ventre. « Parangon est très bizarre depuis quelque temps. »«
Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? » releva-t-il avec ironie.
Là, c'est différent. Il est bizarre, mais de façon inquiétante. Et il dit que l'affrontement avec Enid est notre destin et que rien ne doit nous détourner de ce but.
Et vous n'êtes pas d'accord ? Demanda Brashen pour la sonder.
Je ne sais pas quant au destin. Brashen, si nous pouvions tomber sur Vivacia quand elle n'a qu'une bordée de service et la voler à ce moment-là, je ne souhaiterais pas mieux. Je ne veux qu'une seule chose, mon navire et son équipage s'il y a des survivants. Je n'ai aucun désir qu'on se batte ni qu'on verse le sang plus qu'il n'est nécessaire.
Moi non plus, dit Brashen à mi-voix.
Et il versa encore une rasade dans les verres.
Mais je ne crois pas qu'on récupérera Vivacia sans l'un et l'autre. Et il faut qu'on se fasse à cette idée dès maintenant.
Je sais,
concéda-t-elle à contre-cœur. Vraiment, le savait-elle. Elle n'avait jamais participé à une bataille d'aucune sorte. Une ou deux rixes de taverne, c'était là l'étendue de son expérience en matière de bagarre. Elle n'arrivait pas à s'imaginer une épée en main se battant pour libérer la Vivacia. Si on l'attaquait, elle saurait se défendre, certes, mais pourrait-elle sauter sur un pont étranger en brandissant une lame et tuer des hommes qui lui étaient inconnus ? Assise là avec Brashen bien au chaud dans une chambre confortable, elle en doutait. Ce n'était pas dans les mœurs des marchands. On l'avait éduquée à négocier pour obtenir ce qu'elle voulait. Pourtant, une chose était sûre, elle voulait reprendre Vivacia. Elle le voulait passionnément. Quand elle verrait son navire bien-aimé en des mains étrangères, peut-être la rage, la furie s'éveillerait-elle en elle. Peut-être alors serait-elle capable de tuer.
« Eh bien ?» lança Brashen.
Elle se rendit compte qu'elle avait les yeux perdus vers la fenêtre dans le sillage frangé de dentelle. Elle reporta son regard sur lui. En tripotant son verre, elle demanda à son tour « Eh bien, quoi ?»«
On se fait pirate ? Ou du moins, on fait semblant ?»
Dans sa tête, ça tournait à toute vitesse. « Vous êtes le capitaine ?» dit-elle enfin. « Je crois que c'est à vous de décider. » Il garda un moment le silence, puis finit par lui adresser un grand sourire. « Je l'avoue, sur un certain plan, l'idée me séduit. J'y ai déjà réfléchi. Pour notre pavillon, que pensez-vous d'un serpent de mer écarlate sur fond bleu ?»
Altea fit la grimace.
« Ça n'a rien d'un porte-bonheur, mais effrayant, oui. »«
Effrayant, c'est ce qu'on cherche. »« Et c'est l'emblème le plus terrifiant que j'ai pu imaginer issu directement de mes pires cauchemars. »« Quant à la chance, je crains bien que nous n'ayons à compter que sur nous-mêmes. »«
C'est ce qu'on a toujours fait. »« On ne poursuivra que des transports d'esclaves ?»
Une expression de gravité passa sur le visage de Brashen, puis... Une pointe de son ancienne malice éclaira son regard.
On ne serait peut-être pas obligé de poursuivre qui que ce soit. On pourrait seulement faire comme si.
Et si on jouait un peu la comédie?
Je serais un cadet insatisfait de Terrilville, un genre de petit maître, par exemple, un monsieur qui a mis cap au sud pour tâter un peu de la piraterie et de la politique. Qu'en dites-vous?
Altea rit bien fort. Le rhum s'étalait dans son ventre et poussait des vrilles de chaleur de partout son corps.
« Je crois que vous pourriez en arriver à vous prendre au jeu, Brashen. Mais moi, comment expliquer un équipage mixte sur un vaisseau de Terrilville ?»«
Vous pourriez être ma ravissante captive, comme dans une histoire de ménestrel, une fille de marchand prise en otage et rançonnée. »
Il coula vers elle un regard oblique.
Ce qui contribuerait à établir ma réputation de hardi pirate. On pourrait dire que le Parangon était votre navire familial pour expliquer la vive nef.
C'est un peu trop dramatique, objecta-t-elle doucement. Dans les yeux de Brashen luisait une vive étincelle. Leur homme les affectait tous les deux. Au moment où elle craignait que son cœur ne l'emporte sur sa raison, le visage du capitaine se rembrunit tout à coup.
Si seulement il nous suffisait de monter une farce aussi romanesque pour reprendre Vivacia. Mais en réalité, jouer au pirate sera beaucoup plus violent et sanglant. Je crains bien de ne pas apprécier le rôle autant que la voye, ou Parangon.
Il secoua la tête.
Parfois, je me dis que ces deux-là ont une prédisposition à... comment dirais-je, à la pure méchanceté.
S'ils avaient l'un ou l'autre toute l'attitude de s'y abandonner, je crois qu'ils s'enfonceraient dans une sauvagerie qui nous paraîtrait à vous et à moi inimaginable.
Parangon ?
Prononça Althea sur un ton dubitatif. Mais un petit frisson de certitude lui parcourut l'échine.
Parangon, confirma Brashen. Lavoie et lui peuvent se révéler un très mauvais tandem. Je voudrais les empêcher de se rapprocher, si c'est possible.
Un coup à la porte les fit sursauter.
Qui est là ?
Demanda rudement Brashen.
Lavoie, commandant. Entrez.
Althea se leva d'un bond et le second entra. D'un coup d'œil rapide, il remarqua le flacon de rhum et les deux verres sur la table. Althea tâcha de ne pas avoir l'air surprise ni coupable, mais le regard qu'il lui lança exprimait éloquemment ses soupçons. D'une voix sarcastique qui frisait l'insolence, il déclara
« Navré de vous interrompre, mais il faut s'occuper des affaires du navire. Le charpentier est inconscient sur le gaillard d'avant. « J'ai pensé que vous aimeriez le savoir. »«
Que s'est-il passé ?»
demanda Althea sans réfléchir.
Lavoie eut une moue de dédain.
« Je m'adresse au capitaine, matelot. »«
Exactement, » dit Brashen d'une voix froide. « Alors poursuivez. Althea, allez voir le charpentier. Lavoie, que s'est-il passé ?»«
Corbleu, est-ce que je sais, moi ?»
Le robuste second haussa exagérément les épaules.
« Je l'ai trouvé là et j'ai pensé que vous aimeriez le savoir. »
Althea n'avait pas le temps de le contredire et ce n'était pas le moment de révéler à Brashen qu'elle les avait laissés seuls tous les deux. Le cœur sur les lèvres, elle se précipita pour voir ce que Lavoie avait fait à Ambre.